Studio Tamani, voici les informations en français.
Au sommaire de cette édition, Timbuktu Institute alerte sur la propagation de la menace djihadiste aux frontières entre le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. L'Institut de recherche sénégalais préconise une coopération entre ces trois pays pour circonscrire la menace. Fin des concertations des forces vives pour la relecture de la charte des partis politiques. Les participants ont recommandé la dissolution de tous les partis politiques et l'investiture du président de la transition comme président de la République pour 5 ans. Dans certains quartiers de Bamako, des jeunes s'adonnent à des acrobaties à moto, un phénomène dangereux et risqué aussi bien que pour ces acrobates que pour la population. Nous en parlons dans notre dossier de la semaine. Les détails, c'est dans un instant avec Juliette Koulibaly. Seydou Ndao assure la technique. La menace djihadiste se propage dans l'ouest du Mali selon Timbuktu Institute. Dans un rapport publié ce 27 avril, l'Institut de recherche sénégalais indique que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jinim étend son influence dans la zone des trois frontières entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Entre infiltration économique et expansion stratégique, les djihadistes s'adaptent et avancent, rapporte le document. Maman Baba Kunta pour plus de détails.
Timbuktu Institute tire la sonnette d'alarme. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans progresse au Sahel. Longtemps concentré sur le nord et le centre du Mali, le groupe a franchi une nouvelle étape. Il est désormais actif dans la zone sensible des trois frontières entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal, révèle l'Institut de recherche. Selon les rapports, les djihadistes investissent dans l'élevage, la filière bois et la contrebande, générant ainsi des revenus tout en renforçant leur réseau. Ces activités servent aussi de couverture pour transporter armes et explosifs, facilitant leur expansion progressive. À partir de la région des Kay, les Jinim tentent désormais de s'infiltrer en Mauritanie et à l'est du Sénégal. Une offensive discrète, freinée toutefois par la forte cohésion sociale au Sénégal, qui reste pour l'instant un rempart partiel contre l'extrémisme. Les rapports recommandent d'intensifier la coopération régionale, de renforcer la sécurité aux frontières et surtout d'investir dans le développement local pour priver les groupes armés de leur levier d'influence. À l'heure où la stabilité du Sahel est plus que jamais menacée, une réponse collective et coordonnée apparaît indispensable, ajoute les documents.
Une planification commune, une synergie et une coordination des actions de sécurisation par le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Voilà ce que propose Dr Bakary Samb pour endiguer la menace djihadiste présente dans cette zone. Le directeur de Timbuktu Institute rappelle par ailleurs que le tout militaire n'est pas la solution à la situation. Il est joint par Oumar Waïgalo.
En plus de la montée en puissance des FAMA, de l'intensification des efforts, le Mali aussi doit travailler sur les aspects socio-économiques. Parce que une arme n'a jamais tué une idéologie. Il faudrait que le Mali puisse gagner la bataille du renseignement. Les trois pays doivent travailler ensemble et que la planification stratégique commune devra inclure nécessairement un engagement à tous les niveaux qu'ils doivent prendre ensemble à l'instar de la réunion de février 2025 entre les chefs d'état-major des armées sénégalaises et maliennes. Et je crois qu'il faut même aller vers la création et la mise en œuvre de forces opérationnelles conjointes, binationales, trinationales, entre la Mauritanie, le Sénégal et le Mali, qui devraient constituer une priorité de planification stratégique. Cela ne pose aucun problème, même si le Mali travaille avec la Russie. Les pays sont souverains qui choisissent ses partenaires stratégiques, ses partenaires sur le plan sécuritaire.
L'armée malienne a annoncé avoir mené une opération contre des sanctuaires terroristes dans le secteur de Sebabougou, cercle de Diémor, région de Nioro, lundi 28 avril 2025. Dans son communiqué, l'état-major précise que le raid des FAMA a permis de neutraliser 21 terroristes, détruire plusieurs de leurs bases et récupérer des armes et moyens logistiques. Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur la page Facebook ou le compte X de Studio Tamani. Autre sujet de ce journal, la phase nationale des concertations des forces vives pour la relecture de la charte des partis vient de prendre fin. Parmi les recommandations retenues figure la dissolution de tous les partis politiques au Mali, le durcissement des conditions de création des partis politiques en limitant le nombre à 5, la suppression des modalités de financement des partis politiques, la suspension de toutes les activités électorales jusqu'à la pacification du pays, entre autres. Les participants ont aussi adopté comme recommandation spécifique l'installation du général d'armée Assimi Goïta comme président de la République pour 5 ans à Limoges de son homologue du Niger. Nous y reviendrons en détail dans nos futures éditions. Les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'AIS, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ont été reçus hier lundi 28 avril par le roi Mohamed VI. C'était en marge du forum de Crans-Montana qui se tenait à Casablanca. Pour le spécialiste des relations internationales, Dr Hossein Ben Bamba, cette audience traduit une volonté commune de renforcement des liens entre les pays de l'AIS et le Royaume du Maroc. Il est joint par Lala Diarra Touré.
Cette visite marque un rapprochement entre le Maroc et les pays de l'AES dans un contexte où ces derniers cherchent à diversifier leurs partenaires internationaux, notamment en se détachant progressivement, n'est-ce pas, des puissances coloniales. Le Maroc pourrait exprimer une forme de reconnaissance ou de légitimation des régimes de transition militaire au pouvoir dans les trois pays, ce qui constituerait un soutien politique non négligeable. Des accords bilatéraux et multilatéraux pourraient être discutés. Les pays de l'AES font face à une menace terroriste persistante. Et le Maroc, fort de son expérience en matière de lutte contre le terrorisme, pourrait proposer une coopération sécuritaire et de renseignement. Pourtant, la facilitation de l'accès à l'Atlantique pour l'AES pourrait avoir un impact économique très significatif et potentiellement booster leur développement à plusieurs niveaux.
Chaque année, le 28 avril est célébrée la Journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail. Cette journée vise à promouvoir la prévention des accidents et des maladies professionnelles à travers le monde. Au Mali, les accidents de travail restent fréquents selon les spécialistes du travail et de la sécurité sociale. Ils déplorent toutefois la non-application des lois censées protéger les travailleurs contre les risques sanitaires et les maladies professionnelles. Le docteur Seydou Idrissa Kanté, médecin du travail et spécialiste en sécurité sociale, propose quelques précautions pour prévenir les accidents du travail ainsi que les moyens de réparation en cas d'incident. Il est joint par Kouma Finkeita.
Aujourd'hui, nous savons qu'au Mali, seul l'INPS est en train de prendre en charge ce risque social. Au niveau de la Caisse malienne de sécurité sociale qui concerne les fonctionnaires, nous avions constaté qu'il existe une loi qui prévoit les accidents de travail pour les fonctionnaires, mais jusqu'à présent, la loi n'est pas encore opérationnelle. Il y a ce qu'on appelle les comités d'hygiène et de sécurité qui sont dans les entreprises où on fait tout pour prévenir les accidents de travail. L'autre aspect pour la prévention des accidents de travail, de veiller à ce que des visites périodiques de l'inspection du travail et autres, il y a une période de déclaration de l'accident. L'employeur doit le déclarer à l'INPS et l'employé aussi doit le déclarer à son patron qui, à son tour, va le déclarer à l'INPS. En ce moment, il y a d'abord une prise en charge concernant les premiers soins. Après, il y a le traitement des dossiers.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
À Bamako, comme dans d'autres grandes villes du Mali, un phénomène préoccupant se répand. Il s'agit de la multiplication des conduites dangereuses de grosses motos sur la voie publique. Cette pratique risquée, souvent à l'origine de nombreux accidents, gagne du terrain, surtout la nuit. Bien que ces acrobaties impressionnent certains, elles mettent en danger non seulement les conducteurs, mais aussi les autres usagers de la route. Nous en savons plus avec Moussa Agmahaha.
Aux aux abords des établissements scolaires dans les quartiers animés ou sur les grands axes. Il n'est pas rare d'observer des groupes de jeunes motards faisant des acrobaties. Cette pratique, devenue pour eux un moyen d'attirer l'attention et gagner en popularité, constitue aujourd'hui un véritable défi pour certains usagers à Bamako. En effet, ce phénomène est à l'origine de graves accidents selon leurs propres dires.
Non, c'est un phénomène vraiment qui est à voir. Et surtout, je dirais, de faire en sorte que les policiers s'intéressent à ça.
Ces gens-là, ils s'adonnent à prendre des stupéfiants.
Ce phénomène-là, actuellement, commence à déranger la population. Donc, ce que moi, j'aurais souhaité, est que la police vraiment puisse intervenir.
Ibrahima Traoré, surnommé Bruno le Motard, est un jeune cascadeur qui a débuté en 2008. Contrairement à de nombreux autres, il ne pratique pas la cascade pour le simple plaisir, car il est conscient des risques de cette pratique. C'est pourquoi il ne réalise jamais de cascades inutiles en pleine circulation. Il affirme avoir été invité à plusieurs événements pour y effectuer des démonstrations.
Je fais de l'escorte, de la publicité et le maintien également. Je livre des prestations lors des événements comme les mariages, par exemple. Je ne fais pas la cascade pour perturber la circulation, encore moins pour faire peur aux gens. En plus, quand je fais des acrobaties, je me protège pour ne pas être blessé en cas de chute.
En plus de ces différentes prestations, notre interlocuteur dispose également de 3 grosses motos qu'il met fréquemment en location sous réserve du respect de certaines conditions.
Je donne mes motos en location par heure. Chaque heure fait 30 000 francs, mais je ne les donne jamais à quelqu'un qui n'a pas 18 ans. Si tu viens louer une moto, on signe une convention. Tu écris ton nom, ton numéro et d'où tu viens. Au cas où tu endommages la moto, impérativement tu vas la réparer.
Nos interlocuteurs invite les autorités et la société civile à unir les efforts afin de lutter contre ce phénomène qui met en danger de nombreuses vies humaines.
Un mot de sport avant de boucler ce journal. Les affiches des demi-finales de la 64e édition de la Coupe du Mali de football sont connues depuis hier. Samedi 3 mai, en première demi-finale, le FC Diarra affronte le Stade malien de Bamako et le dimanche 4 mai, en seconde demi-finale, l'USFAS en découdra avec le Djoliba Athletic Club. Nous recevons à présent Mariama Koulibaly pour nous introduire le grand dialogue. Bonsoir Maria.
Bonsoir Julie, le thème du grand dialogue d'aujourd'hui est « Héritage, comment rendre le partage équitable ?» Nous recevons ce soir Kouredjo Missa Doumbia, chef coutumier, Dr Souleymane Diarra, maître de conférence à la faculté de droit privé UKB, et Seydou Djonko, imam et membre du réseau Islam et Population.
Bonne émission et c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Faites-nous parvenir vos plaintes, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. Le magazine Toutes les femmes du Mali va aujourd'hui explorer le sujet de la chirurgie plastique, une pratique qui consiste à améliorer l'apparence physique ou à corriger des anomalies corporelles. Mais quels sont les risques pour les patients? Le Mali dispose-t-il de plateaux techniques pour ce type d'opération? Autant de questions évoquées par Lala Diarra Touré avec l'appui de nos correspondants.
Aujourd'hui, les standards de beauté incluent une poitrine bombée, un galbe fessier impressionnant, une taille de guêpe et bien plus encore. Et pour y parvenir, les femmes ont recours à la chirurgie plastique. Si dans un passé récent, la discipline n'était pas pratiquée au Mali, aujourd'hui, le plateau technique existant permet de la réaliser. Selon le professeur Bertin Dambélé, chirurgien plasticien, il existe 3 types de chirurgie plastique.
Il y a la chirurgie réparatrice, c'est quand il y a une partie du corps qui est affectée. Maintenant, il y a la reconstruction également. C'est totalement enlevé, mais tu remets la structure à sa place normale. Maintenant, on parle de la chirurgie esthétique quand il s'agit juste d'un effet d'amélioration, mais qui n'affecte pas en soi la fonctionnalité de l'organisme ou du corps de la personne.
Le professeur Bertin Dambélé ajoute que les chirurgies les plus fréquentes concernent généralement l'abdominoplastie, la chirurgie mammaire, celle des yeux et des fesses.
Il y a un excès de peau ou un peu de graisse au niveau des peaux. paupières. Ça, c'est une chirurgie qui est demandée, tant de par des hommes aussi, de par des femmes. Après ça, c'est la chirurgie de l'abdomen. Il y a les seins aussi qui sont aussi sollicités, que ce soit la reconstruction ou l'esthétique aussi des seins.
Beaucoup de femmes ont recours à ces interventions pour diverses raisons.
Bon, j'ai fait une réduction à ma mère. C'était pas purement esthétique, parce que ce sont les douleurs qui m'ont dirigée vers l'oncologue. Après ça, j'ai fait une liposuction. C'était esthétique. Donc après, là, j'ai eu confiance en moi.
J'avais des kystes sous mes yeux. Après l'intervention, tout le monde disait que j'avais rajeuni et j'étais contente.
Je suis prête à faire la chirurgie plastique pour garder mon nom.
Tout ça pour plaire à qui? En tout cas, les hommes que nous avons rencontrés à Bamako, Ségou et Mopti restent réticents face à l'idée de passer par une chirurgie pour être belle.
Les femmes nous trompent avec la chirurgie esthétique. Je suis de Mopti. Je désapprouve cette nouvelle tendance.
Nous avons des perles, des tenues traditionnelles qui attirent les hommes. Aller faire la chirurgie esthétique, ça ne vaut pas la peine.
Ça provoque le cancer des seins.
Justement, contrairement à ces idées reçues, les implants utilisés lors de certaines interventions chirurgicales ne sont pas cancérigènes, parole de spécialiste. Docteur Madani Li, cancérologue à l'hôpital Mère-Enfant, le Luxembourg.
Il n'y a pas de relation de cause à effet entre le fait de faire des implants mammaires et les risques de cancer du sein.
De plus, bien que les implants soient en silicone, ils n'empêchent pas l'allaitement, rassure professeur Bertin Dambélé, chirurgien plasticien.
Si on peut donner les seins après les implants mammaires, la réponse elle est oui. Ça n'a vraiment pas d'influence par rapport à l'allaitement puisque la glande mammaire est conservée.
Pour le psychologue Idrissa Traoré, les femmes qui optent pour la chirurgie plastique sont généralement victimes de remarques désobligeantes sur leur physique dans leur entourage.
Les moqueries, les sabotages, les critiques que les gens ont vis-à-vis de leur état physique. Si ces femmes-là n'ont pas pu surmonter cette difficulté, donc elles vont être influencées à chaque personne d'avoir une certaine maturité mentale pour faire face à ces critiques.
Ainsi, la chirurgie devient pour ces femmes une solution pour se réconcilier avec leur corps. Toutefois, les spécialistes conseillent de la pratiquer avec modération. La beauté, oui, mais la santé avant tout.